France Culture. Avoir raison avec Paul Valéry. Géraldine Mosna-Savoie.
La durée des œuvres est celle de leur utilité. Il y a des siècles pendant lesquels Virgile ne sert à rien. Cette phrase est de Paul Valéry et manque de chance ou comble de la clairvoyance, elle semble, 80 ans après sa mort, parfaitement s'appliquer à lui et à son œuvre. Il suffit pourtant, comme le dit encore Paul Valéry, d'un seul exemple, d'un seul argument, d'un seul prétexte pour qu'une œuvre revive. Et aujourd'hui, parce qu'on connaît leurs titres, ou peut-être quelques vers, parce qu'ils sont appris sur les bancs de l'école, mais peut-être enfouis dans nos mémoires, ou bien trop rangés dans le patrimoine culturel, on révise deux classiques de sa poésie, de quoi en redécouvrir toute leur vitalité et toute leur beauté. Toute cette semaine, on dépoussière le trop officiel Paul Valéry. Aujourd'hui, quatrième épisode, le cimetière marin et la jeune Parc dont on écoute les premiers vers.
Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure, seul avec diamants extrêmes. Mais qui pleure, si proche de moi-même au moment de pleurer. Cette main sur mes traits qu'est le rêve effleuré, distraitement docile à quelque fin profonde, attend de ma faiblesse une larme qui fonde, et que de mes destins lentement divisés, le plus pur, en silence, éclaire un cœur brisé. La houle me murmure une ombre de reproche, ou retire ici-bas, dans ces gorges de roche, comme chose déçue et bue amèrement, une rumeur de plainte et de resserrement. Que fais-tu, hérissée, et cette main glacée, et quel frémissement d'une feuille effacée persiste parmi vous, île de mon sein nu? Je scintille, lié à ce ciel inconnu. L'immense grappe brille à ma soif de désastre.
Bonjour Mathilde Manara.
Bonjour.
Vous êtes docteur en littérature comparée et chercheuse à l'ENS. Et bonjour à vous William Marx.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeur au Collège de France et tous les deux, vous avez dirigé Valéry au Collège de France, disponible aux éditions évidemment du Collège de France. Alors avant d'entrer dans le détail de La Jeune Parc, dont on vient d'entendre les premiers vers, un poème qui date de 1917, est-ce que c'est comme ça, avec cette tonalité, avec ce rythme, qu'on doit lire les poèmes de Paul Valéry? C'est une lecture qui date de 68, mais je me suis posé la question moi-même en lisant les poèmes ces derniers jours. Mathilde Manara.
Bonne question pour une personne qui l'a d'abord rencontré en traduction, ce poème. Je suis impressionnée par cette lecture que je trouve très sensuelle. Et donc, pour ma lecture du texte juste, puisque ce qui m'a toujours frappée de la réception de Valéry, et c'était qu'on le considérait un poète de la pensée abstraite, alors que pour moi, il est un poète de la pensée, certes, mais aussi du corps, et du corps très concret. Et ce poème est peut-être l'exemple le plus illustratif de cet aspect de son œuvre. Une fois, je m'étais amusée à calculer le nombre de fois où la jeune Parc, cette jeune femme qui traverse peut-être son adolescence, qui rentre dans la vie adulte, on est un peu à la frontière entre ces deux moments de vie, combien de fois elle évoque son corps, et j'en étais sortie avec plus de 100 références à son corps.
Il faut dire que c'est un poème très long quand même.
Oui, mais oui, c'est vrai plus de 100 vers, mais en effet avec plus de 100 références, très morcelées. Parfois on l'a lu, on l'a écouté, des mains, des yeux, la peau.
Le sein.
Le sein, oui, tout à fait, le sein. Mais un corps tout de même très présent. Et je trouve que cette lecture nous restitue très bien cette dimension sensorielle et sensuelle.
William Marx, vous, comment vous lisez les poèmes de Paul Valéry dans votre tête ?
J'aimerais bien le lire un petit peu comme nous l'avons entendu. Mathilde Manara a raison, la poésie de Valérie est très charnelle, et en particulier la jeune Parc. Et c'est vraiment ce qu'on a entendu, c'est ce que permet aussi la lecture à la radio, c'est-à-dire que on a cette voix très murmurée qui permet d'entendre le timbre le plus profond de la voix, un timbre calme. Et surtout, il faut entendre le legato de cette poésie, c'est-à-dire que pour Valérie, la poésie est une voix continuée, c'est-à-dire qu'on passe, le vers lui-même est lui-même une unité, et on passe sans effort en principe d'un vers à l'autre. J'ai un tout petit peu regretté par exemple dans la lecture qui a été faite, qui est quand même très belle, je dois dire. La lectrice s'est arrêtée à « comme chose déçue et bue amèrement ». Je trouve que l'arrêt était un peu trop fort. Je pense qu'on devrait entendre plutôt le lien qu'avait prévu Valérie entre « et bue amèrement » pour entendre effectivement cette eau de la poésie du vers qui coule. Mais c'était une très belle lecture, et je crois qu'il faut entendre cette voix qui, pour Valérie, est à l'origine même de toute poésie.
Pourquoi retient-on en particulier de Paul Valéry Le cimetière marin et La jeune Parc, qui est un poème très long, vous l'avez dit Mathilde Manara, plus de 500 vers. Qu'est-ce qui a fait que ce poème, au moment où il a été lu, révélé au public, a autant marqué les esprits, au point quand même que en 1921, Paul Valéry a été désigné, alors par la revue Connaissance, comme le plus grand poète de son temps?
Je dirais déjà que c'est le poème valérien d'après Le Grand Silence. Donc on sait, et ça fait partie du récit parfois aussi romanié, en tout cas très présent chez Valéry lui-même, de son propre parcours de poète. Ceci est le texte qui brise le long silence que Valéry décide d'entamer après la tout aussi célèbre Nuit de Gênes. Et c'est un poème qui arrive en plein milieu de la guerre et qui, toujours à ma lecture en tout cas, rassemble dans une sorte de tombeau, de mausolée, tout l'ensemble des topoi lyriques qui étaient peut-être en danger de disparaître, ou en tout cas de perdre lourdement de sens avec tout ce qui, autour de l'espace du poème, avait lieu dans ces années. Donc je pense que l'un des aspects qui ont fait que ce texte survive et déjà à l'époque soit reconnu comme si important, en-delà de sa perfection formelle, c'est aussi qu'il cristallise, il fige avec aussi un questionnement intime sur la survie du poème, ce musée de figures de style, de topoi, d'images, qui pour le coup nous arrive comme dans leur cristallisation, mais avec la possibilité de demeurer vivant tout de même.
Voilà, c'est ça tout l'enjeu quand même avec la poésie de Paul Valéry, et l'enjeu aussi de cette série D'avoir raison avec Paul Valéry, c'est que Paul Valéry souffre d'avoir figé justement tous ces topoi lyriques, d'avoir figé la poésie à un moment donné, on l'a patrimonialisée, on l'a immortalisée, et donc cette poésie, c'est vrai aujourd'hui en 2025, peut paraître à certains égards assez datée par son lyrisme ou par mauvaise interprétation, parce qu'on s'enferme dans une poésie abstraite, William Marx.
Ce n'est pas vraiment ce que nous avons entendu dans les premiers vers de La jeune Parc. C'est l'éveil d'une conscience qui pleure là, sinon le vent simple. La jeune Parc s'interroge elle-même sur qui elle est. Comment s'éveille-t-on d'un songe et comment devient-on ce que l'on est, ou du moins quand on ne sait même pas ce que l'on est. Je crois que ce qui est frappant dans les deux poèmes, La jeune Parc et Le cimetière marin, sur lesquels nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est que ce sont deux poèmes totalement existentiels. Ils posent la question de la vie et de la mort. Et dans La jeune Parc, la question se pose au niveau individuel pour Valéry lui-même, à savoir est-ce qu'il peut sortir du silence lui-même ? Qu'est-ce que c'est que sortir d'un silence qu'il s'est imposé à lui-même depuis près de 20 ans ? Est-ce que la France va continuer ? Le pays qui est à ce moment-là en guerre et qui est sur le point peut-être de disparaître, est-ce qu'il y aura encore une langue française après cette guerre, et donc effectivement ce poème est conçu comme une sorte de tombeau à la langue française, à la littérature française, où Valéry récapitule tout ce qu'a été la littérature. Mais au bout du compte, ce que Valéry raconte, c'est pas seulement une situation individuelle ou une situation nationale, c'est aussi une situation propre à toute conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que parvenir à la conscience ? Qu'est-ce que c'est que continuer à exister quand on est assailli de doutes, de pulsions en nous qui peut-être nous amènent, pourraient nous amener à la mort, au suicide, parce que c'est vraiment un poème sur la tentation du suicide, la tentation de sombrer dans la mort. Et la jeune Park le dit très très clairement, c'est l'idée, est-ce qu'on va continuer à vivre? Est-ce qu'elle-même va continuer à vivre? Une remarque pour dire que, en fait, ce poème résonne, mais totalement en nous, même sur la question de la condition féminine. La jeune Park se demande, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à, est-ce qu'elle va donner naissance? Est-ce que ce corps qui est fait pour des délices, est-ce qu'elle va donner naissance à tous ces êtres vivants qu'elle pourrait engendrer? Allez, spectre, soupir la nuit vainement exhalée, allez joindre des morts les impalpables nombres, je n'accorderai pas la lumière à des ombres, je garde loin de vous l'esprit sinistre et clair. Je n'accorderai pas la lumière à des ombres. Tous ces enfants qu'elle pourrait avoir, elle décide de les maintenir, de rester dans une sorte de vie individuelle sans donner la vie. C'est incroyable comme propos.
Mathilde Manara, sur cette question existentielle qui fait que même si on n'est pas au courant du silence de Valérie, des topoï de la littérature de l'époque, fait qu'en fait, quand on lit La Jeune Park, on est forcément touché aussi par cette dimension.
Tout à fait. Et en ce sens, je trouve qu'il y a une sorte de fraternité, ou pour reprendre la question du féminin, de sororité implicite entre ce grand texte, très difficile par ailleurs, mais appréhendable sous cet angle existentiel, entre La Jeune Park et d'autres grands poèmes de la littérature européenne de l'époque. On pense à Rainer Maria Rilke et aux Élégies de Duino, qui s'ouvrent par un même questionnement rhétorique et pas du tout en même temps. Qui, si je criais, m'entendrait entre les ordres des anges? Une question qui est une question d'existence et des moyens d'existence de la conscience, à une époque où ce genre d'interrogation était central et venait tout juste d'être posé. Donc je suis d'accord que c'est aussi le chemin par lequel on peut se rapprocher de ce texte, autrement peut-être intimidant, mais tout à fait vibrant.
Et sur la manière dont Paul Valéry l'a créé, justement, sur, vous parliez de sensualité, de sensorialité, Mathilde Manara, est-ce qu'on peut faire appel aussi pour donner à découvrir un Paul Valéry qui est loin de l'abstraction, quelque chose effectivement dans des travaux, dans des histoires, dans d'autres textes où on a un Valéry plus charnel aussi?
Oui, c'est intéressant, puisque un autre aspect qui m'a toujours frappé en ayant rencontré Valéry par l'étranger, je pense que j'ai eu...
Je précise que vous êtes d'origine italienne.
Oui, tout à fait. Et donc, je ne suis pas passée par l'apprentissage de Valéry par l'école. Ce qui m'a toujours d'emblée et qui continue toujours de m'émerveiller, c'est l'écriture en prose de Valéry. Et c'est la prose lyrique, ces poèmes en prose qui ressemblent, à mon sens en tout cas, plus à du Rimbaud qu'à du Mallarmé, fonctionnent comme des sortes d'atelier de création poétique, mais que Valéry, par un sens peut-être d'ancien taxonomiste, n'a pas voulu ou ne s'est pas accordé de considérer comme valable, qu'il a toujours, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'understatement, considéré de la poésie perdue, mais qui sont un autre chantier d'interrogation sur le corps, sur la sensualité, outre que, bien sûr, j'ajoute seulement ceci, les manuscrits, puisque Valéry nous donne toujours une idée de son travail poétique comme un travail très opérationnel, très combinatoire, qui se serait imposé à lui. Alors quand on regarde les manuscrits de Valéry, c'est tout un autre univers.
Lequel?
Les manuscrits de La Jeune Park, les manuscrits du Cimetière Marin, tout particulièrement.
Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ces manuscrits?
On peut y voir un travail de rature, de bifure, de reprise, qui n'est pas présent dans les récits que Valéry a par la suite donné de la composition de ses textes. Je pense au Cimetière Marin, qui a été décrit par lui comme un texte qu'il avait presque visité, et dont la forme arrêtée serait arrivée par un hasard, puisque Jacques Rivière, directeur de la Nouvelle Revue Française, serait arrivé et l'aurait trouvé dans un état du Cimetière Marin. Or, quand on regarde les manuscrits qui sont conservés à la Bibliothèque Nationale, on retrouve un grand travail, un travail très fin sur le mot, sur la forme et sur la page aussi. Donc cette dimension matérielle, elle est aussi présente.
On va tout de suite écouter un extrait, enfin plutôt les derniers vers du Cimetière marin.
Zénon, cruel Zénon, Zénon délé, m'as-tu percé de cette flèche ailée qui vibre, vole et qui ne vole pas? Le son m'enfante et la flèche me tue. Oh, le soleil! Quelle ombre de tortue pour l'âme, Achille immobile à grands pas. Non, non, debout, dans l'air successif. Brisez mon corps, cette forme pensive. Buvez mon sein, la naissance du vent. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme. Oh, puissance salée, courons, allons d'en rejaillir vivant. Oui, grande mer de délire douée, peau de panthère et clamide de trouée de mille et mille idoles du soleil, hydre absolu, ivre de ta chair bleue qui te remord l'étincelante queue dans un tumulte au silence pareil. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez, vague, rompez d'eau, réjouisse-toi tranquille ou picorez des phoques.
Les derniers vers du Cimetière marin, poème de Paul Valéry de 1920, extrait du recueil Charme, lu cette fois-ci par Michel Etcheverry en 1971, une lecture beaucoup plus engagée, presque colérique. On retrouve ici cette dimension William Marx existentielle, puisque ces derniers vers, il faut tenter de vivre, c'est bien un appel à l'existence dans ce Cimetière marin.
Un appel à l'existence et quasiment un refus de la poésie, à bien des égards. C'est-à-dire que le poème s'ouvre sur une sorte de méditation dans un cimetière au bord de la mer. Alors on dit que ce cimetière existe, hein, il se trouve à Sète, hein, il y a même le musée Paul Valéry qui se trouve juste à côté.
Et
c'est
la
là
tombe.
Que Valéry et la tombe de Valéry est là, finalement. Mais bon, ça pourrait être n'importe quel autre cimetière sous le soleil méditerranéen. Et donc, on est au départ dans l'idée d'une réalité qui a arrêté. C'est midi, le soleil est au sommet, tout est figé dans une sorte d'immobilité de l'être. Et on a l'impression que l'être va continuer ainsi, de manière perpétuelle. Et ce que nous raconte le poème, c'est précisément la destruction de cette illusion, qui est une illusion d'abord poétique en vérité, mais aussi une illusion existentielle, philosophique. Et donc le poète, le narrateur de cette voix qu'on entend à l'intérieur du poème, va passer par différents stades pour comprendre qu'en fait, il faut sortir de ce statisme. La conscience elle-même est toujours divisée par rapport à elle, elle est toujours en lutte vis-à-vis d'elle, c'est à cette lutte que l'on assiste, et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut entrer dans le mouvement, entrer dans l'existence, sortir de la pensée, sortir de ce drame de la pensée qui est un drame absolument délétère, il faut entrer dans le réel, et sortir même des mots, à bien des égards, puisque on commençait par quelque chose qui paraissait comme une métaphore, ce toit tranquille, ou marche des colombes, qui est en fait la description de la mer, où les colombes sont les bateaux qui naviguent sur l'eau, mais c'est une illusion métaphorique et une hallucination quasiment au sens surréaliste du terme. Le rapport avec Rimbaud, les illuminations marche très très bien. On a vraiment de là une perception du réel, mais une perception qui est en certains égards fausse. Et ce que nous dit à la fin le poème, c'est que ce toit tranquille, en fait, il est rompu par les vagues, donc ce n'est plus du tout quelque chose de stable, et les colombes redeviennent ce qu'elles sont, c'est-à-dire elles redeviennent des bateaux et des phoques, c'est-à-dire non pas l'animal, hein,
oui. Otari,
mais effaussé, c'est-à-dire la petite voile qu'on a sur le bateau, et qui est une manière aussi de revenir dans le concret, le technique le plus immédiat. Donc, il s'agit de sortir de l'illusion et sortir de la poésie pour entrer dans le réel.
Mais ça, c'est assez fou, parce qu'à travers ces deux poèmes, on se rend compte non seulement de la dimension existentielle, mais aussi sensorielle, concrète, matérielle. Mais vous l'avez dit, William Marx, cette idée des différents stades d'une lutte. Dans les deux poèmes, il y a une lutte pour sortir de quelque chose, pour sortir, parce que la Jeanne d'Arc, je le rappelle, c'est quand même une déesse qui préside à la destinée des hommes, qui tire ou coupe le fil de la vie des hommes. Et là, le Cimetière marin, on est dans une ambiance qui pourrait être mortifère. Et en fait, les deux sont des appels à la vie, mais après une lutte. D'où la longueur de ces poèmes. En fait, on les lit comme une histoire de lutte, Mathilde Manara.
Tout à fait, ce sont des combats de l'intellect qui se poursuivent au long de plusieurs vers et qui demandent à être poursuivis par les lecteurs. Dans une idée qui peut-être est aussi un clin d'œil anticipé aux futures lectures philosophiques du cimetière marin en particulier, c'est ce à quoi je pense. C'est un poème qui a été interprété, lu de façon très sérieuse par plusieurs philosophes, John Austin, Gustave Cohen, Alain Badiou plus récemment. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est cette anticipation de Valérie face aux lectures trop théoriques de ce poème, comme si par ce parcours à travers toute l'histoire de la philosophie, de Lucrèce à Zenon, jusqu'effectivement à l'existentialisme que Valérie préconise quelquefois, il essayait aussi de mettre en garde contre des lectures trop abstraites, trop intellectuelles de son texte, qui finalement est un texte aussi qui expose, illustre sa poétique de composition. Donc une poétique qui considère que la force du poème par rapport à la prose, notamment, c'est que il permet de maintenir les mots, le langage, dans un état de non utilitaire quelque part, et donc de les protéger aussi d'un usage intellectuel, d'une interprétation trop orienté dans un sens ou dans un autre.
Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quand même une dimension phénoménologique de ce poème, notamment, d'après ce que vous disiez, William Marx, les images, c'est-à-dire la perception de la réalité, elle est omniprésente, en fait, dans Le cimetière marin.
Elle est fondamentale. Pour Valérie, il exprime cela très bien dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, l'important c'est de revenir aux origines mêmes de notre pensée, c'est-à-dire à la sensibilité, à tout ce qui nous parvient par le corps. Donc le corps est absolument inséparable de la création artistique et poétique en particulier. Il y a une formule que j'aime bien dans les cahiers où il dit « il faut écrire au plus près de la source ». Écrire au plus près de la source, c'est-à-dire écrire au plus près de la source de nos impressions. Et donc, en fait, cette illusion dans laquelle est le poète au départ d'une mer immobile, ce n'est pas une métaphore. C'est réellement, voir les choses telles qu'elles nous apparaissent avant même que l'esprit n'intervienne. Et l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, c'est une puissance de mobilité. C'est une puissance de désordre également. On parlait des manuscrits du cimetière marin en particulier. Ce qu'on voit dans ces manuscrits, c'est qu'en fait, Valérie n'a cesser d'expérimenter un ordre différent des strophes les unes avec les autres.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre.
Non, ce qui est totalement anti-philosophique, parce que les philosophes essaient de trouver une sorte d'ordre dialectique.
Il n'y a pas une argumentation qui est filée.
Voilà. En fait, l'idée, c'est surtout de trouver pour Valérie ce qui est de l'ordre de ce qui lui importait beaucoup, c'est la modulation. C'est-à-dire comment on passe d'un état à un autre. Mais l'important, c'est le passage. L'important, c'est le passage plus que l'état lui-même. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être pas très philosophique, ou alors plus héraclitéen qu'autre chose, en quelque sorte. Il s'agit surtout de faire entrer le lecteur dans ce mouvement même de la pensée. Et à la différence, effectivement, sans doute, peut-être de Mallarmé, c'est quelqu'un pour... Valérie est un poète pour qui le poème n'est pas l'exploration du réel par le langage, mais c'est l'exploration de la subjectivité. Et utiliser la subjectivité, l'impression, pour créer une œuvre d'art et surtout pour transformer le lecteur, pour que le lecteur, à son tour, soit transformé par ce poème et soit mis lui-même en branle par le poème.
D'ailleurs, la lecture de la jeune Parc nous donne une idée justement d'être dans la tête de cette jeune Parc et d'être avec elle, à frôler la mort, à avoir l'avenir devant soi ou derrière elle. On a vraiment effectivement une identification presque, on a presque l'impression, bon, je vais faire un anachronisme, presque de l'autofiction quand on lit la jeune Parc.
Il y a plusieurs figures que Valérie cherche à incarner à une certaine distance près, j'ai l'impression. La jeune Parc en est une. Les différents héros des histoires brisées, qui est un recueil posthume de prose volontairement ou pas interrompue, en tout cas que Valérie, par un certain mépris ou en tout cas une sorte de jugement hiérarchique des genres littéraires n'avait jamais mené à bien, et ben là aussi on trouve tout un ensemble de figurations corporelles de la pensée dont la jeune Parc et le jeu lyrique du cimetière marin ne sont que des exemples.
J'ai une dernière question, mais on a le temps pour la développer. Paul Valéry est connu pour ses poèmes, notamment ces deux-là que l'on vient d'évoquer. Au départ, il semblait très rétif à la prose. Finalement, la poésie occupe une partie mineure de son œuvre. Pourquoi s'est-il mis à la prose finalement? Et quel rapport entre sa poésie et sa prose, William Marx?
à partir du moment où celui pour qui il travaillait à partir au début des années 20, je vais être très matériel, disparaît, Édouard Lebey, pour qui il était un secrétaire particulier, eh bien Valéry n'a plus la possibilité de se consacrer librement à la poésie. Et donc il doit avoir des boulots alimentaires, son boulot alimentaire c'est faire des conférences. Donc il fait des conférences, effectivement, qui sont des conférences en prose, où il explique en particulier son travail poétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que va se développer aussi chez lui tout un intérêt pour un autre type de poésie, qui est, on a parlé des histoires brisées, qui est la poésie en prose. Il essaie de trouver ce secret de la prose. Oui, bien sûr, le vers, c'est une parole continuée, mais il est possible, dans la prose elle-même, de créer, là aussi, cette loi qui va permettre d'enchaîner le lecteur. Et donc, Valéry va être, on l'a dit, un prosateur immense, l'un des plus grands prosateurs de toute l'histoire.
Qu'est-ce qu'il faut lire de sa prose ?
Alors, il y a peut-être deux ou trois choses à lire. Moi, j'ai découvert Valéry par les dialogues. Eupalinos ou l'architecte est un dialogue d'une prose extraordinaire, c'est merveilleux pour la pensée, donc il faut lire ça. Il faut lire les poèmes en prose aussi, c'est-à-dire les histoires brisées, et puis Alphabet. Mmh. Alphabet qui est là aussi un recueil inachevé de 24 poèmes qui suivent toutes les lettres, dont l'initiale suit toutes les lettres de l'alphabet, et qui raconte aussi toute une journée. Et c'est assez extraordinaire, et d'une sensualité et d'une force phénoménale, et beaucoup plus simple à lire que la poésie en vers.
D'un mot, Mathilde Manara, sur la prose de Paul Valéry, est-ce que vous pensez qu'il a réussi à percer le mystère de la prose ? Et alors, quel est-il ? On aimerait savoir.
En tout cas, il a continué de s'interroger sur ce mystère en venant d'un très très loin horizon, celui de la poésie symboliste et post-symboliste. Je trouve que c'est un penseur très courageux qui a réussi à petit à petit, avec beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, à se détacher et à ne jamais quitter entièrement ces questionnements de départ. Et la prose de Valéry est aussi pour moi l'un de ses plus intéressants cadeaux pour nous aujourd'hui. En tout cas, une bonne porte d'entrée.
Et alors, je précise quand même que Paul Valéry n'a jamais touché au roman, ça, non, pas du tout.
Gallimard lui avait proposé, quand il a eu beaucoup de succès avec Le Cimetière Marin, avec Charme, d'écrire un roman cérébral et sensuel. Et il lui avait dit, je vous couvrirai d'or. Et Valéry n'a jamais fait ce roman. Mais on peut l'imaginer.
Mais
quand
il est
on
devenu
lit
prof au Collège de France.
Voilà, mais on peut l'imaginer en lisant La Jeune Parc et Le Cimetière Marin.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathilde Manara et merci à vous, William Marx. De vous deux, sous votre direction, on peut lire Valéry au Collège de France, aux éditions du Collège de France. De vous, Mathilde Manara, on peut lire L'intelligence du poème, lyrisme et pensée chez Valéry, Rilke, Stevens et Montalet, aux éditions Classique Garnier. Et de vous, William Marx, votre édition des cours de poétique de Paul Valéry en deux volumes, aux éditions Gallimard. Je rappelle que toutes les œuvres de Paul Valéry sont disponibles aux éditions Gallimard. Un grand merci à Nicolas Berger pour la réalisation et à Marie-Claire Oumabadi pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite et la fin de cette série Avoir raison avec Paul Valéry. Et d'ici là, rendez-vous sur le site et sur l'application Radio France.